dégage sur le canal 72-72.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Radio Ponton, l'émission qui parle de tout ce qui flotte sur une, deux ou trois coques, à la voile ou au moteur, à la rame ou avec des foilers. Toute l'actualité de la plaisance et du nautisme en moins d'une heure, c'est maintenant et c'est ici, ce mois-ci, une émission spéciale Vendée Globe. Nous ferons bien sûr un point sur la course, ses leaders, les avaries rencontrées et les pronostics, en compagnie de nos invités spéciaux, le musicien Molécule qui nous parlera de son projet avec Thomas Ruyant sur Linked Out. Olivier, directeur commercial de la marque Rock'n'Folk, qui nous parlera des playlists des coureurs. Mais nous commencerons tout d'abord avec notre consultant spécial Bilou, Roland Jourdain, pour analyser la situation actuelle. Pour aborder tous ces sujets, notre équipe d'experts, issus des rédactions de Voile Magazine et Le Monde du Multicoque, François-Xavier de Crécy dit FX.
Bonjour Pierre-Yves.
Et Damien Biden dit Damien.
Bonjour.
À la régie, c'est Alan, moi c'est Pierre-Yves. Ne lâchez pas la barre et montez le son, vous êtes sur Radio Ponton. On va commencer avec un point sur la course. Nous sommes le vendredi 20 novembre, c'est important de le préciser. Ce que nous disons à l'heure actuelle ne tient compte que des informations dont nous disposons. FX, Damien, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce début de course qui ne ressemble pas forcément à un Vendée Globe classique?
Qu'est-ce qu'on peut dire? On va en parler à Roland dans quelques instants, à Roland Jourdain. C'est un début de course quand même...
Passionnant ouais. Avec ouais. Du rebondissement, des trucs inattendus... On va parler de Jean Le Cam, personne ne l'attendait là. Très honnêtement, je sais pas, on imaginait peut-être les foilers s'envoler beaucoup plus vite, beaucoup plus loin.
Clairement.
Non, même si la flotte est très étirée suite à certains retards, compris certains concurrents, il y a quand même un groupe de tête qui est assez, pour l'instant assez compact.
On est plutôt content qu'Alex Thompson n'ait pas fait le trou. N'est pas vraiment distancé les deux autres parce que comme ça on va avoir un gros match dans l'Atlantique Sud, ça va être génial.
Il a créé un petit peu le trou quand même en passant au milieu de Teta, mais les 100 000 qu'il a gagné
ouais, mais très intéressant d'ailleurs les différentes approches. Lui il a fait du Thompson, c'est-à-dire qu'il a foncé dans le tas et c'est passé et il a pris une grosse avance à ce moment-là. Les autres ont fait le tour et j'ai bien aimé d'ailleurs les vidéos de Charlie Dalin qui disait moi j'ai pas son expérience, je commence un tour du monde, je préserve mon bateau. Alors c'est peut-être lui qui a raison. Là, il a pris 100, il a eu jusqu'à combien, 120 000 d'avance, plus, je sais plus.
50,
qu'importe. Mais donc des approches différentes, mais au final ils ont quand même recollé. Et puis c'est quand même le début d'un tour du monde. Donc
il y a le poteau noir en même temps qui permet aussi de recoller puisque c'est une deuxième porte on va dire à franchir qui permet de.
Ouais, il n'était pas très méchant pour eux.
Non, pour eux non. Pour ceux d'après, ça sera peut-être pas la même chose.
Ce qui est assez intéressant sur ce Vendée Globe, c'est qu'il y a des récits différents quand on écoute un peu toutes les vidéos dont on a. Qui sont à foison hein, quand même, c'est qu'il y a très clairement des leaders, des compétiteurs, on nous parle stratégie, etc. Et en même temps, il y a beaucoup de bisutes sur cette édition, et avec des témoignages très, très nature. Alors forcément, ça va être Samantha Davis et Clarisse Kremer, on les attend sur ce genre de récit, elles savent...
Clarisse, elle cache rien de ses bobos, de ses ouais. Émotions, elle dit que si elle a peur, elle dit qu'elle a peur, donc c'est une... Il y a un côté, c'est la réalité.
Est-ce que c'est pas propre à la première semaine ou quelque part, on doit peut-être aussi partager ses émotions parce que quand on est bisu, c'est la première fois qu'on vit ça. On n'aura peut-être pas des contenus identiques sur le reste de la course, non? Il y a pas.
C'est vrai que dans la tradition de la course au large, c'est plutôt je serre les dents et
tout va bien.
Et je suis un marin, j'ai pas mal. Elle, c'est pas ça. Elle raconte ce qui lui arrive et c'est aussi son approche de la com, mais c'est aussi. C'est aussi pour ça qu'elle est appréciée.
Ouais, elle, c'est vachement dans l'émotion, mais on disait Charlie et le fait qu'ils disent ouais, non, mais moi je vais prendre des pincettes et je vais m'éloigner un peu de cette dépression. Ça aussi, c'est assez.
C'est une nouvelle génération
en
nouveau.
Fait. Ouais.
Mais alors, cela dit, sur Clarisse, il ne faut pas se tromper, même parce que quand on regarde un peu ses vidéos de sa mini Transat avant, elle affiche ses émotions, elle dit ce qui va pas et tout, mais elle s'accroche et au final elle a fait une super mini.
Ouais, elle envoie du bois.
En fait, elle est costaude quoi.
Elle est pas là par hasard. Est-ce que il y a une espèce de prime à l'expérience aujourd'hui quand on voit ceux qui sont devant, c'est ceux qui ont peut-être justement le courage de pousser leur monture à fond dès
oui.
Maintenant.
Oui, forcément.
Très clairement, quand on est à son cinquième Vendée Globe, on n'appréhende pas de la même façon. le bateau, la tempête, la façon dont il faut gérer l'équipement, etc.
Moi, je voudrais demander à Romain Molécule, tu suis la course de près, est-ce que tu regardes que ton poulain, entre guillemets, le bateau que tu as équipé en termes de son, on en parlera, ou est-ce que tu regardes la course de très près?
C'est vrai que je suis un peu plus focus sur les navigateurs qui sont en tête de flotte. Je trouve que le début de course est assez captivant. Il a l'air assez compliqué aussi pour les navigateurs à gérer. Je suis ravi de la présence de Jean Le Cam, qui amène un peu de fraîcheur, même si c'est le doyen. Voilà, ça montre que le flair, l'instinct, l'expérience ont une incidence réelle dans la performance. Et j'espère qu'il va rester un peu au contact. J'adorerais qu'il parte avec les trois autres sur une même dépression dans les mers du Sud, parce que je pense que ça serait super hein, pour le scénario que tout se joue dans la remontée de l'Atlantique, quoi, et qu'il n'y ait pas trop de casse, ce qui a été quand même assez le cas. Je suis ravi que Chéroux, Bayou, pardon,
et repris
la course et puis l'Occitane aussi, ça aurait été vraiment dommage qu'il soit mis sur le côté.
Et alors justement, c'était quand même le gros fait de course du début de course, c'était le chaos de Charal et même de Jérémy Bayou, j'ai envie de dire qu'on voyait cette vidéo où tout d'un coup il remettait un peu en question tout ce qui traverse depuis 4 ans. Cette vidéo était terrible, où il réalise qu'il a occulté plein de choses qui lui sont arrivées, qu'il était tellement focus, obsédé par sa course. Cette vidéo était terrible. Et donc,
c'est émouvant.
On pourra en parler avec Roland, d'ailleurs je propose qu'on ne tarde pas à l'appeler. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un projet qui était trop programmé pour gagner, de façon trop affichée? Est-ce que du coup ça génère trop de pression?
La pression, je pense qu'ils en ont beaucoup, ouais. Qu'elle soit médiatique, celle du sponsor aussi, la famille, l'entourage, les compétiteurs aussi. Je pense que
dans la séquence émotion, Nicolas Troussel, qui a la voix chevrotante quand il raconte son dématage, est pas mal aussi. Hein. On sent qu'ils sont complètement impliqués et à 100% et qu'ils se mettent des œillères sur tout le reste. Du coup, quand ça s'effondre...
Après, avec le manque de sommeil, ils ont aussi les émotions à fleur de peau. Ils sont très up et très down, comme
on dit. Moi, il y a un point qui m'interpelle un petit peu. On a parlé des marins, bien sûr, et de tout le côté humain. Puis il y a aussi quand même le côté technique. Il n'y a pas un écart si important, finalement, entre ces foilers de dernière génération et un bateau comme celui de Jean Le Cam, qui, bien sûr, a été suroptimisé dans les trois derniers Vendée Globe. Il y a un nœud et demi, deux nœuds. On pouvait s'attendre, non, Damien FX, à des écarts plus importants?
Oui, on pouvait s'y attendre. Après, Fix en parlera peut-être mieux, mais ça dépend des conditions de vent et de mer. Et pour l'instant, les conditions rencontrées n'ont pas permis aux foilers de creuser l'écart. Quoique, sur quand même le passage du poteau noir, ils ont tout d'un coup accéléré, très clairement. Et c'est là où on a vu Jean Le Cam se faire quand même rattraper, dépasser et un peu larguer.
En fait, depuis qu'ils sont dans les Alizés, ils ont quand même des conditions qui sont vachement favorables aux foilers. Mais je pense que la résistance de Jean Le Cam, elle est aussi un peu en trompe-l'œil sur le classement. Quand on regarde le décalage en latitude, il est quand même important. Et c'est normal, c'est mécanique. Mais bon, c'est l'ancien Foncia, hein, le bateau de Jean Le Cam, vainqueur 2008-2009. Et c'est un excellent bateau. Moi, ce qui me frappe, c'est que pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a assez peu de différentiel avec les foilers de deuxième génération. PRB.
PRB qui est toujours dans le top 5 depuis le départ.
Louis Burton, donc Bureau Vallée, qui fait d'ailleurs une très belle course. J'ai pas l'impression qu'il le rattrape vraiment, pour l'instant.
La seule différence, c'est celui d'Alex Thompson qui permet de rétracter la totalité des foils. Et à mon avis, au cœur de Theta, ça a dû lui être bien utile pour éviter de mettre en danger son bateau.
Alors c'est possible, on ne sait pas exactement comment il a...
On ne sait pas, parce que sa communication, elle n'est pas évidente à suivre non plus.
Et il a fait un gros départ au tas, je crois, pendant dans la tempête. Gros départ au tas qu'il a dû gérer. Et est-ce que ça... Alors, sans gros dégâts, mais bon, on en parlait tout à l'heure, s'il s'est fait rattraper pendant la descente vers l'équateur et juste après, c'est peut-être aussi qu'il avait des petites réparations à faire.
Puisqu'on parlait d'avarie, on parlait tout à l'heure de quorum, c'est des mâts en monotypie, tout le monde a sensiblement le même mât. C'est des mâts qui ont été pensés avant que les foils de dernière génération ne voient le jour. Pas très rassurant quand même d'avoir un mât qui pète comme ça au milieu.
Après, c'est la mécanique, hein. Il suffit qu'il y ait un...
Ouais, alors c'est pas forcément le mât qui pète, hein. Le mât, ça se trouve, c'est ce qui tient le mât qui pète en fait. Donc le mât a beau être monotype, les ancrages du mât, elles, je crois pas qu'elles le soient.
Le gréement dormant.
Le gréement dormant, c'est ça. On a un son que Romain nous a ramené justement à bord, qui peut être intéressant à écouter parce qu'il y a des alarmes et en fait il tire énormément sur le gréement. Voilà typiquement un peu l'ambiance qu'on a à bord.
Là, on
a,
est là.
Alors c'est toi qui récupères ces enregistrements, pardon. Et puis en plus, tu as navigué, tu as participé à une course sur un des Dimoka, donc tu connais ça par cœur.
Je suis un bisu. Hein. J'ai fait effectivement les 48 heures du défi Azimut aux côtés de Thomas sur Linked Out. Et j'ai équipé ce bateau de 16 micros, des micros à l'extérieur, à la proue tout à l'avant, des micros dans le mât, ce fameux mât monotype creux, qui est une formidable caisse de résonance. J'en ai mis à la poupe tout à l'arrière, sous la casquette, des micros contacts à l'intérieur de la coque. 16 micros disséminés un peu partout. Et Thomas m'envoie des prises de son de ce dispositif tous les 2-3 jours. Matière avec laquelle je produis des bulletins sonores sur France Info quotidiennement, du lundi au vendredi. Donc ça me permet de vivre la course au plus près et de mêler aussi ça avec l'expérience de navigation que j'ai eue. Je suis resté 2 jours et demi sur le bateau, mais à pleine bourre quand même. On a fait des phases à plus de 30 nœuds de moyenne pendant quelques heures.
Et du coup, tu les as vécues, ces phases d'alarme, ou tout d'un coup, c'est quoi? C'est branle-bas de combat
C'est l'alarme qu'on entend, on se croirait dans un film.
Et là, on ne l'entend pas fort, en fait. Hein. Là, on l'entend, mais on ne la vit pas. C'est la même chose avec 15-20 dB supplémentaires. Donc, cette alarme, je l'ai vécue, elle est presque incessante, puisque quand le marin fait ses petites, j'appelle même pas ça dormir, c'est des sortes de mini-siestes hein, par tranche de 20 minutes, il met en fait différents capteurs en alarme, le degré de gîte, la vitesse, l'inclinaison du vent, changement de direction du vent, plein de capteurs comme ça, les tensions, des foils.
Des foils. Et celui qu'on entend là dans l'extrait qu'on vient d'écouter, tu sais ce que c'est comme alarme ?
Alors c'est une alarme pour tout, ces capteurs qu'il règle en fait avant d'aller dormir. Après il y a des réveils différents en intensité. Quand j'en parle dans le bulletin sonore de la semaine dernière, c'est le réveil qui au bout de 3 fois se met en alarme. Donc c'est le niveau d'intensité le plus fort. Le premier signal sonore pour le réveil étant une musique aléatoire choisie dans sa bibliothèque iTunes.
Alors le réveil, on va rebondir vite fait parce que c'est important pour ces marins. Il ne faut pas oublier qu'Alex Thompson a failli gagner une route du Rhum, mais malheureusement
il n'avait pas le bon réveil.
Il n'avait pas le bon réveil, il s'est retrouvé à la côte. Et que Jean Le Cam, dont on a parlé et dont on loue les performances, a failli se retrouver lui aussi à la côte au début de ce Vendée Globe.
Cap Finistère.
Il s'est réveillé à 7000 du Cap Finistère. Ouais.
En panique.
En panique, exactement. Quoi. Donc il le raconte de façon tout à fait drôle, mais ça aurait pu être carrément dramatique. Quoi. Donc le réveil, c'est capital.
Est-ce qu'on entend avec un des micros, est-ce qu'on entend le marin ronfler quand il fait ses siestes?
Alors, j'ai jamais entendu Thomas ronfler. Peut-être tout simplement parce que les niveaux sont tellement forts que la respiration, même la parole, hein, il faut parler très fort pour l'entendre. Donc non, je n'ai pas de ronflement de Thomas encore, mais la route est encore longue, hein, plus de 60 jours encore.
Et alors, là on a entendu ce qui est capté sur le bateau, qu'est-ce que tu vas faire de tous ces sons ?
Alors là, on a entendu une prise de son qui est au poste de pilotage, là où il fait ses cartes, là où il passe quand même la plupart de son temps, à l'intérieur. On l'entendra un peu plus tard dans l'émission, mais il y a d'autres prises de son très différentes. Et l'idée avec cette matière, c'est de composer une musique Dans la continuité de mes projets jusqu'à présent, je suis parti en 2013 sur un chalutier pour mettre en musique la tempête. Je suis resté plus d'un mois et demi en plein Atlantique. Je suis parti un peu plus tard sur le Groenland, travailler autour du silence, et dernièrement sur la plus grosse vague du monde à Nazaré. Et donc ce processus créatif, je l'applique là à la course au large, un peu grâce à vous, hein, il faut bien le mentionner, grâce à Voile Magazine et notamment Damien Biden, qui m'ont mis en, voilà, vous m'avez mis en contact avec, avec Thomas et son équipe. Et l'époque où on a parlé de ça, on n'imaginait pas l'ampleur de tout ce projet. Donc voilà, un grand merci.
Bah, c'est top.
Et vous faites vraiment partie de cette aventure. Et avec Thomas, voilà, on a avancé ensemble. Et la finalité là, centrale de ce projet, c'est de réaliser un film autour de la course au large, autour de la course de Thomas, un film un peu novateur avec un regard nouveau sur la course qui est le regard du bateau, le regard froid, voire clinique du bateau sur le marin, et sortir de un peu de ce carcan du selfie et du regard du marin sur sa propre course, sur ce que le marin veut bien nous montrer en fait. Là, avec le dispositif mis en place, on a l'ambition, je dis on parce qu'il y a toute une équipe derrière, hein. Je pense à Vincent Bonnemazou, Benoît Gilgues qui m'accompagne sur les aspects techniques et même un peu artistiques. On a l'ambition de capter de l'ultra-réalisme.
Et alors Thomas, justement parlons-en, c'est un bon client pour ce type de projet? Comment est-ce qu'il a perçu cette proposition?
Alors Thomas, déjà c'est un bon client parce qu'il a accepté malgré toutes les contraintes et malgré la dimension sportive qui est très importante pour lui, puisqu'il il veut être performant sur ce Vendée Globe.
Et il l'est pour l'instant. Oui.
Et il l'est pour l'instant, c'est magnifique. Et beaucoup de contraintes techniques, de poids, de consommation électrique. Il a fallu rentrer là-dedans, donc ça on a...
Techniquement, c'est alimenté comment toute cette installation?
Alors il y a de l'électricité sur le bateau, il y a un moteur qui tourne.
Donc c'est-à-dire qu'il doit le faire tourner plus souvent que les autres pour pouvoir compenser justement la surconsommation?
Alors plus souvent que les autres, je ne sais pas, parce que chacun a son propre système électrique, ses propres appareils, donc ça je ne peux pas comparer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de par la présence du dispositif molécule sur le bateau, il doit faire tourner son moteur plus souvent. Je crois que c'est quelques litres de gasoil, hein. Faire tourner son moteur, c'est égal litres de gasoil, donc c'est égal poids.
Bien sûr.
Donc ça rajoute, ça touche un peu à la performance. C'est pas énorme, hein. On a créé un système qui ne consomme pas beaucoup.
Qu'est-ce qui l'a convaincu du coup? Parce que s'il y a des contraintes, il y a bien une contrepartie en échange.
Ah bah, je pense que clairement ce qui l'a convaincu, c'est qu'à travers ce projet, on lui offre la possibilité d'écrire sa mémoire comme personne, comme nul autre, et le faire de manière inédite et nouvelle. L'ambition de ce projet, c'est de marquer aussi les contenus, les films qui ont été faits jusqu'à présent, qui fascinent tant de monde.
Tout à fait. Alors, par rapport au projet précédent en 2013 sur un chalutier, on parlait de la tempête. Là, il y a quand même des bruits sur ces bateaux qui n'existaient pas il y a quelques années. Les foils ont fait apparaître, j'imagine, des nouvelles sonorités. Les vitesses sont un petit peu différentes.
Tout à fait. Alors ça, je ne peux que l'imaginer. Je n'ai jamais navigué sur ces bateaux ou sur le bateau de Jean Le Cam, par exemple. Ce serait intéressant de voir la différence. Mais les foilers sont une formidable... C'est des formidables instruments de musique, hein, parce qu'ils résonnent, ils jouent une partition qui est le résultat de la recherche incessante de performance du navigateur et des conditions météo. Ça change constamment. Et Thomas est un peu l'interprète de cet instrument. Ce que j'entends jusqu'à présent, ça fait 15 jours à peu près qu'ils sont partis. C'est assez incroyable.
Ce qui est incroyable, c'est que souvent quand on entend les skippers justement parler des bruits à bord, ils le décrivent comme un enfer. Je crois que c'est un mot-clé qui est revenu assez souvent. C'est amusant de voir qu'avec cette même matière première, on transforme l'enfer en sonorité mélodieuse et surtout en belle histoire.
Ouais, alors c'est un travail qui sera fait une fois le bateau revenu à terre. Là, pour l'instant, c'est vraiment des sons bruts qu'on entend. C'est un contexte quand même assez anxiogène, très fort. Beaucoup de marins se protègent du son. Moi, j'ai le souvenir que cette expérience sur le défi Azimut, ça fait rentrer quand même dans un état presque de transe, parce que c'est des sifflements incessants et qui rentrent vraiment dans la tête, quoi, hein, qui prennent la tête. Faire ça sur 70 jours, ça me paraît complètement hors de portée en ce qui me concerne.
Ouais, d'autant plus que sur le défi Azimut où tu as navigué, les conditions étaient plutôt clémentes.
Tout à fait.
Rien à voir avec ce qu'ils vont rencontrer, ce qu'ils ont déjà rencontré.
Est-ce qu'on peut écouter un exemple de ce que tu avais fait avec le son capté sur le chalutier, le Joseph Roty de Saint-Malo?
Alors, ouais. L'idée avec le Joseph Roty, je crois que c'était d'aller en pleine tempête. Hein.
Oui, tout à fait, j'avais
là,
cherché.
C'était une Thompson Touch, quoi. Là, tu voulais aller au cœur de la dépression. Quoi.
J'avais fait un casting de bateau pour trouver un bateau qui m'emmène suffisamment longtemps pour avoir le temps de composer un album, puisque l'album était composé entièrement sur l'eau, sur ce bateau-là, dans une cabine que j'avais aménagée en studio. Et ça, c'était la première contrainte. La deuxième, c'était un bateau qui aille dans des zones assez propices aux tempêtes, en plein hiver. Et donc, c'est le Joseph Roty, un bateau usine, qui produit de
et
la
là,
pâte à surimi.
Eux, ils vont en carton, hein. Ils vont à Atlantique Nord, West Écosse, là où vraiment ça tape. Quoi. Allez,
tout à fait, c'est les seuls et les marins dont on voue les mérites actuellement sont surnommés les guignols par ces pêcheurs. Là, on entend les impacts. C'est un morceau qui a été composé, je ne sais plus, au 19 ou 18e jour de navigation, au large des îles Hébrides, au nord-est des côtes écossaises.
Ouest,
tout à fait. Et on entend les impacts en pleine tempête. C'était de nuit, des vagues de 10-15 mètres sur la coque d'acier, avec des enregistrements qui avaient été réalisés sur le pic du bout d'avant, tout à l'avant, où j'étais parti harnacher avec une cibi au cas où. Voilà, c'est un sacré souvenir.
Donc, ça correspond à quoi? C'est le beat, là, c'est des impacts que tu as retravaillés?
Oui, alors il y a deux choses. Hein. Il y a des enregistrements du réel, des prises de son, et par-dessus, je le raconte souvent comme ça, on va dire que ça appelle l'harmonie et la rythmique. La rythmique de ce projet, hein, l'album s'appelle 60 degrés 43 nord, c'est la latitude la plus au nord à laquelle on est monté. C'est le tempo a été vraiment donné par le moteur qu'on entend du début, le jour du départ jusqu'au retour, qui ne s'arrête jamais, qui ne change jamais d'intensité, qui est aux alentours de 118 BPM, donc c'est à peu près le tempo de tous les morceaux qui ont été composés. Ouais.
Le bruit qu'on entend, ce n'est pas le surimi qui bouge encore.
Mmh. Alors moi qui suis complètement fan et qui ai assisté à quelques concerts de Romain, il faut voir qu'il y a cette musique et l'origine. Donc c'est très intéressant de voir où ont été piochés ces sons. Il faut imaginer aussi que quand il se produit en concert, il a une formule qui est à 360 degrés. C'est-à-dire qu'il joue, enfin, il arrive à faire un concert complètement immersif où autour de lui sont projetées sur les écrans les images qui ont été filmées pendant qu'il composait et pendant ses prises de son. Mmh. Et là, du coup, c'est assez incroyable parce que, alors qu'on aime, enfin, on aime ou on n'aime pas la musique électronique, mais c'est totalement immersif. J'ose même pas imaginer si tu nous fais la même chose avec les sons du vent des globes et des images qui vont être tirées de tout ça. Je pense que ce sera des concerts où il faudra aller en veste de car, c'est clair. Quoi. Ça va être génial.
Il y aura des concerts justement avec Thomas Ruyant, peut-être, un témoignage croisé.
Oui, bah, y a l'idée toujours sur les projets de décliner les contenus. Là, il y a un projet radiophonique en ce moment, il y a ce film, il y a la musique, et puis il y aura peut-être une tournée. C'est aussi des projets fragiles. L'histoire, elle est en train de s'écrire actuellement. Voilà, ça va avancer, on va voir petit à petit. Mais,
moi, je vois bien une belle fête à l'arrivée de Thomas dans quelques mois.
Oui, je pense que ça, à coup sûr, et quoi qu'il arrive, on l'accueillera comme il se doit.
On appelle Bilou.
Bonjour Roland Jourdain.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, avec FX et Damien. On parlait du Vendée, on voulait avoir un petit peu ton analyse aujourd'hui, vendredi 20 novembre.
Alors, mon analyse depuis le départ, celle du jour, celle de la nuit, il y a tellement de choses à raconter.
Oui, qu'est-ce qui t'a marqué? On parlait tout à l'heure émotions, on voyait un petit peu les émotions de ceux qui sont devant, les émotions de ceux qui ont vécu quelques jours un petit peu délicats. Quel regard tu portes sur la course depuis le début?
Ah, écoute, je prends du plaisir et c'est pas toujours bon pour la productivité à terre hein, de suivre leurs débats. Écoute, qu'est-ce qui m'a marqué les temps derniers? Bon, il y a le si on rembobine et qu'on regarde la première semaine, c'était tellement chouette de voir Alex et Jean devant. Là, c'était vraiment symbolique de la diversité. Je trouvais ça vraiment chouette. Autant l'un que l'autre, ils ont fait un début de parcours en quasi sans faute. Hein. C'est chouette. Alors avec le monde anglo-saxon d'Alex et la bête, la monture, la taille du projet et puis la réalité de Jean qui est tout à fait haute mais qui montre ses qualités, c'est Jean quoi. Donc c'était joli. Qu'est-ce que j'ai aimé
Et Roland, alors, c'est dur. Roland, ouais. Excuse-moi. Moi j'ai repensé à toi en voyant, quand on regardait les vidéos d'Alex Thompson, d'ailleurs Damien a fait un article là-dessus. C'est vrai que c'est pas très sexy. On a l'impression qu'il pourrait aussi bien tourner ça au fond de son garage, parce que son cockpit étant ce qu'il est. Et tu nous avais dit il y a quelques mois, sur ces bateaux-là qui n'ont plus de visibilité vers l'extérieur, quel est encore le plaisir de naviguer ?
Je garde mes propos. Hein. Je me questionne toujours autant sur l'avenir de notre sport. Si on raisonne effectivement uniquement performance, Alex, c'est un coursier du troisième millénaire, bardé d'électronique, de système de contrôle obligatoire, hein, parce que de toute manière, comment tu veux régler une chute de génois ou de gineux ou autre chose à 30 nœuds avec tu vois plus rien. Donc il faut effectivement des caméras, il faut effectivement des capteurs, des forts, enfin. Toute une chaîne de trucs, quoi. Donc c'est des questions. Et puis c'est vrai qu'a priori le plaisir de partir en mer, c'est de voir la mer, entre autres. On a passé l'époque où on se prenait le chou à choisir nos 12 couches de vêtements et de cirés, etc. Là, on n'a plus besoin que d'un top pour aller quand on abat changer les voiles de vent ou aller mettre un cooling gamme de grand voile pour un riz. Et sinon, tout se passe dans la boîte, quoi. Donc c'est un vrai questionnement. Ouais.
Et alors, le fait marquant du début de course, c'était quand même les soucis de Jérémy Bayou. Comment tu vois ça ? C'est un projet qui était programmé pour gagner et puis tout s'écroule. Est-ce que trop de pression ? Qu'est-ce qui peut se passer dans ces cas-là ?
Trop de pression sur la poulie de renvoi, c'est sûr. puisque l'ancrage a pété. Alors, avant de rentrer dans le technique, c'est vrai que c'est le drame de la première semaine. C'est super rude, parce que moi, pour l'avoir vécu, alors pas si tôt en course, mais quand j'ai pété ma quille dans le deuxième Vendée à mi-route, c'est le plan de truc, tu mets des mois à digérer ça. J'ai trouvé super, vraiment, vraiment super, la décision de Jérémy de repartir. Parce que je pense qu'au niveau thérapeutique, de toute manière, il n'y a rien de mieux que d'aller digérer ça en mer que de rester regarder ça par les réseaux sociaux l'hiver et puis d'aller se cacher. Donc c'est super, même si ça doit être dans la douleur et tout. Après, c'est super compliqué quand on commence à parler technique. C'est hallucinant parce que c'est quand même une équipe super pro et ils ont testé le bateau pendant quasi 2 ans à bloc et on peut leur faire confiance. Et pourquoi ça pète là et que ça n'a pas pété ça fait un mois? Moi, j'ai préparé à préparation des globes qui est sur le même bateau.
Hein, c'est le Sistership. Hein.
Ouais. Donc on avait vu effectivement une petite crique, une petite fissure. Il y a eu un renforcement à la retable de l'homme. Hein. Mais l'équipe de Charal l'avait vu, mais en conscience, je pense qu'ils pensaient que leur échantillonnage était bon et tout ça. Donc ça, c'est pas un truc qu'on peut régler au téléphone comme ça en se parlant entre nous. C'est ouais. Un truc de fou. Et on a vu, malheureusement, mais d'autres mystères comme ça se produire parfois. Donc, c'est entre le contrôle systématique des choses, entre le suivi des efforts. C'est tellement long, là, les trucs, ça arrive là, à ce moment-là.
C'est aussi le facteur chance qui joue aussi sur cette course, quoi. Au bout d'un moment.
Ouais. Moi, je te parlais de ma quille dans le Vendée 2004. Lucille et Bonduel, et donc on avait les mêmes bateaux, Jean et moi.
Ouais.
Ma tête de quille a pété, on avait des quilles en carbone. Dès que ça a pété, bon, ben, mon premier réflexe, ça a été de sécuriser, et le deuxième, de donner un coup de fil à Jean pour le prévenir, quoi. Et Jean, il n'a jamais eu un problème sur cette quille, il a exactement la même, quoi.
La sienne a tenu. Donc, est-ce que le mât de Corum qui se casse en deux, c'est un mystère aussi?
Écoute, je sais pas encore. J'espère que la mutualisation des infos et que tout ça, ça va se diffuser dans le groupe, parce que bon, c'est des mâts monotypes, hein, donc.
On sait pas encore. Toi, t'as pas des infos un petit peu, non?
Je pense que les logs et tout ça, les cabinets sont dessus. Je pense qu'il y a eu un pic d'effort. Enfin, c'est forcément un pic d'effort qu'il fera regarder. Entre, je pense qu'ils avaient de quoi enregistrer. Ils ont donné déjà quelques infos, mais il faudra regarder sur des fréquences plus faibles. Si le pic d'effort était là, et là, on se retrouve. Dans un cas de figure qui peut arriver une milliseconde d'un pic d'effort en remontant ou en descendant.
Ouais, ça joue à pas grand chose. Et alors, si on parle de ceux qui sont encore en course, toi, il y a Maxime Sorel qui s'est préparé pas très loin de chez toi, j'ai l'impression, non?
Ouais, on a accueilli le projet de Max depuis l'année dernière, depuis 2019. Et j'ai vraiment apprécié la façon de Max avec son équipe BNB là de se lancer dans l'aventure d'un premier Vendée avec un budget à maîtriser, une histoire à faire et là il mène son petit bonhomme de chemin, il a eu ses petites galères hein. Ça a l'air d'aller.
Et, ouais, avant qu'il ait ses galères, il allait plutôt même très très bien et on espère qu'il revienne dans le match aussi
et
quoi.
Quand tu dis que tu l'as accueilli, c'est-à-dire que le bateau était préparé chez toi à Concarneau, chez Kairos?
Oui, le projet VNB Mayenne, il est dans nos locaux depuis début 2019. On a Thomas Lebé, un des gars de notre équipe, et à temps plein avec VNB. Okay. Et parfois une partie de notre équipe dans les moments de chantier. Et ensuite, Maxime, lui, est autonome dans sa petite vie, une gestion de projet, quoi. Mm-hmm. Mais on accompagne en papa et maman poule, quoi.
Okay. Tiens, alors attends, moi j'ai encore une question. On parlait de la résistance un peu de Jean Le Cam. Bon, on pense que il va quand même forcément être décroché par les foilers de première génération, les trois qui sont devant. Est-ce qu'il peut résister aux foilers de deuxième génération, au PRB, Bureau Vallée, qui sont derrière lui? On n'a pas l'impression qu'il gagne vraiment sur lui en ce moment.
Ah, il y a des allures de rating où forcément, enfin, la génération 2016, quand on a fait la transat Jacques Vabre l'année dernière avec Yannick sur notre coque, on est sorti du poteau noir derrière Jean, là, à 75-80 degrés du vent,
ça fait
mal au bateau à mérite. Hein.
Ok. Puis,
ensuite, cette génération-là va plus vite, de PRB, Initiative, Bureau Vallée, Maître Coq. Après, tu vois, sur la Micaline ou sur le bateau de Stéphane Le Diraison, c'est un peu des foils placebo quand même.
D'accord, ouais. C'est une génération, enfin, les foils ajoutés qui ont moins d'efficacité.
Des foils placebo.
Voilà. Okay. Bon, merci Roland, c'est sympa.
Eh ben oui.
Merci Bilou.
C'est sympa les gars, quand vous voulez. Hein.
Merci beaucoup.
Ça marche, à bientôt.
Salut.
À bientôt.
Des foils placebo. Moi je pense à des foils Canada Dry, c'est vrai ça?
Bah, s'il le dit, c'est vrai. Moi c'est aller à l'encontre.
Après, quand on discute avec Arnaud Boissière, qui a la ferme intention de repartir, je pense qu'il n'arrêtera jamais les Vendée Globes. Hein. Quand on discute avec lui, c'est j'aime ça, tu repartiras, oui, c'est évident.
C'est
tu repartiras comment? Avec un bateau dernière génération, si c'est possible, c'est sûr. Je voudrais des foils plus grands, plus gros, plus.
Arnaud,
plus volants, etc., quoi.
Arnaud Boissière, on a passé un peu de temps avec lui parce que c'était le président du jury du voilier de l'année
dont nous mettrons les prix dans le prochain Radio Ponton.
Dont nous parlerons dans le prochain Radio Ponton, l'élection du voyer de l'année. Et c'est le président du jury, donc on a eu le temps de discuter. Donc c'est son quatrième Vendée, il n'a jamais abandonné un Vendée pour l'instant. Et quand on voit tout le bricolage qu'il fait depuis le début, il est parti pour ne pas abandonner non plus, mais c'est pas facile. Là. Les vidéos en haut de son mât étaient
assez dommage, éloquent. Je pense que ça a dû être un petit peu compliqué. Là, c'était pas un effort placebo.
Non. Ouais. Et alors, on n'a pas Arnaud Boissière autour du plateau, mais on a un bon copain à lui, non ? Il me semble.
C'est ça, voilà. Tout à fait.
Donc, toi, tu soignes son bien-être à bord c'est de la musicothérapie.
Alors, depuis sa première édition, c'était en 2008 ou 2012, 2008, je crois.
2008.
Il m'avait demandé de travailler des playlists par rapport à ce qu'il écoutait.
En tant que spécialiste du son.
Oh, je suis pas un spécialiste du son. Je travaille sur une marque qui s'appelle Rock & Folk au sein des éditions La Rivière, qui a aussi Voile Magazine. Et j'ai toujours été passionné par la musique. On a fait beaucoup de concerts à l'époque avec Arnaud et aussi Yannick Bestaven à Bordeaux, puisque moi je les ai rencontrés quand on était jeunes étudiants à Bordeaux. Et on allait naviguer à Arcachon sur le bassin et on faisait des petites régates, les régates du CVA à l'époque. Et donc pour revenir à Arnaud, sur son premier Vendée Globe, il m'a demandé d'acheter un iPod et de lui mettre de la musique dedans. Donc je lui avais fait des playlists.
Je pense qu'on a un indice quand tu as dit d'où tu venais, où tu travailles aujourd'hui, mais c'est plutôt comédie musicale.
Alors,
il écoute quoi, Arnaud ?
Arnaud, il écoute. On a une grosse tendance à écouter de la musique rock, que ce soit de la musique rock américaine, anglaise ou française. Faut pas oublier que un des groupes qu'on écoutait dans les années 90, c'était Noir Désir, puisqu'on était à Bordeaux et que ce groupe était originaire de là-bas. Et chemin faisant, donc deuxième Vendée Globe, il me rappelle, il me dit « Olive, est-ce que tu veux pas encore me faire mes playlists ?» Donc j'ai continué et puis là, cette année on a changé un petit peu notre fusil d'épaule, on a arrêté les appareils électroniques et on s'est mis sur une plateforme de streaming et j'ai pu leur envoyer des playlists jusqu'au moment du départ en fait. Qu'ils ont téléchargé.
Alors, si vous voulez vous mettre dans l'ambiance, Arnaud Boissière, en gros, vous mettez Chaka Ponk à fond.
Ouais, c'est ça, Chaka Ponk.
Vous mettez les Red Hot à
les
fond.
Red Hot, on peut mettre aussi de The Smiths, hein, c'est un fan de Morrissey. Ouais. Et il écoute aussi de la musique française. Et en fait, pour cette édition, j'ai surtout voulu raconter une sorte de petite histoire. Donc, j'ai réalisé des playlists en fonction des continents qui vont croiser. Donc il y a toute une playlist, toute une playlist plutôt musique africaine. Après le passage du Cap et quand on rentre dans les mers, un petit peu les océans un petit peu plus durs, Pacifique et Indien, on est plus sur de la musique
du métal.
Ouais, moi je l'ai appelé la playlist kangourou parce que c'est vrai qu'en Australie il y a quand même pas mal de groupes qui font du gros son. On pourrait en catégoriser ce son un peu rock à la AC/DC, à la Midnight Oil, In Excess, The Sense, Tame Impala, Nick Cave. Donc il y a des choses qu'ils aiment, ça je sais, du moins qu'ils aiment. Et il y a aussi des groupes, je voulais lui faire découvrir aussi des nouveaux groupes, des nouveaux sons qu'il n'a pas forcément et pas forcément le temps d'écouter en temps normal.
In Excess, ça prend un petit coup de vieux quand même.
Ouais, mais ça fait partie des classiques, faut pas oublier d'où on vient.
Morceaux du Grand Bleu, Eric Serra
Non, là-dessus, je suis pas parti. J'ai pas voulu faire de musique de film parce que ils sont partis. Quand je dis ils, parce que j'ai aussi fait la playlist de Yannick en racontant, Yannick Bestaven en racontant une autre histoire. Ils sont partis avec 2500 titres.
C'était ma question suivante. 2500 titres, ça permet de voir venir. Est-ce que c'est important pour le moral des marins, d'après toi ?
Alors, je pense que c'est important. Alors, moi, je vous écoutais tout à l'heure sur la première semaine qui a été quand même un peu compliquée avec la tempête qu'ils ont traversée. Ce matin, j'ai eu Caroline, l'attachée de presse de Yannick, qui me disait qu'il n'a pas eu le temps d'écouter trop de musique au début en première semaine. Mais là, ça y est, il commence à écouter. Arnaud aussi.
Oui, on a vu une vidéo de Yannick Bestaven qui faisait ambiance disco dans
son
bateau.
Oui, c'est ça. Alors, je ne pourrais pas vous dire le titre parce que je l'ai un petit peu oublié de chasamer en vitesse parce que sur les 2500 titres, moi, je lui ai fait d'autres types de playlists. Il y a aussi une playlist brésilienne pour la remontée de l'Atlantique avec un petit passage reggae pour tout ce qui est Jamaïque, et puis rock américain, rock anglais et rock français pour la traversée retour. Donc ça, c'est la principale playlist. Après, pour Yannick, on est parti sur des moods en fonction de dans
le vent, la mer.
Non, l'état d'esprit dans lequel il est le matin. Donc en fait, il y a un mood, wake up and smile. Ça veut dire envoie un peu le pâté ce matin, réveille-toi, tu as certainement des trucs à faire. Donc il y a des choses assez différentes sur cette playlist parce que il va pas se réveiller de la même façon tous les matins en fonction des conditions qu'il a eues dans la nuit et s'il a pu dormir ou pas. Bon, il y a une playlist, alors je sais pas si on a le droit de le dire à la radio, mais on est sur Rocket Folk, on est dans les studios de Rocket Folk Radio, donc on peut le dire, c'est la playlist Fuck Off. C'est un peu je me suis fait doubler, merde, et où faut que j'envoie un peu du bois pour attraper les autres. Et il y a une playlist 40e rugissant. Alors là, pour le coup, j'ai mis beaucoup de gros sons.
Là, on envoie du lourd. Voilà.
Okay. Alors, c'est marrant ce que tu as dit, parce que tu dis j'ai fait une playlist qui raconte une histoire avec cette approche dans les continents. Et tout à l'heure, on écoutait Romain qui, lui, à partir des sons du bateau, raconte une histoire. Parce que finalement, cette course et tous ces marins différents, mais qui vivent la même aventure, est-ce que ce n'est pas juste simplement une question d'histoire, quoi ? Est-ce qu'on n'est pas, on s'éloigne pas du sport et que ce que les gens adorent, c'est au-delà de la compétition, c'est les histoires de...
Bah, je pense que ce n'est pas pour ça qu'on s'éloigne du sport, parce que tout à l'heure, Romain parlait du scénario de la course, et c'est un peu comme si on regardait un film qui est en train de s'écrire. Mais bon, si tu regardes dans pas mal de sports, il y a aussi des scénarios fous, des remontadas, des machins. Mais oui, le Vendée Globe, c'est ça. On a l'impression d'être au cœur de l'histoire qui est en train de s'écrire. Et c'est aussi le moment où ton boulanger, ta buraliste, tu parles du Vendée Globe. Nous, on est passionnés de bateaux, donc on est un peu tout le temps là-dedans. Et c'est le moment où ça entre dans le grand public.
Dans la vie de chacun. Est-ce qu'il y a des skippers qui chantent à la barre ?
Bon, c'est arrivé, hein. On va voir, parce que maintenant où la vidéo est omniprésente, etc., on va voir si on va à nouveau avoir des séances de air guitare ou des choses comme ça.
Pour le meilleur, pour le pire.
Et pour le meilleur, pour le pire.
En tout cas, il y en a qui se filment en chantant. Ouais. Ça, c'est sûr. Après, est-ce qu'ils chantent vraiment ? C'est là toute la question.
Après, bon, ils sont sur des machines de course, ils vont très vite, etc., mais il y a aussi des moments où... Il y a des temps calmes où on peut à bord, ils sont quand même en solitaire, il faut tuer le temps. Donc oui, qui chantonne, qui s'éclate, c'est tout à fait possible. Quoi.
Olivier, est-ce qu'il y a de la musique qui est propice à la méditation ou à l'introspection ?
Je ne sais pas s'il y a des... Oui, alors ça c'est sûr, il y en a, puisque j'ai même fait pour Yannick une playlist Sunset pour les couchers de soleil. Donc c'est de la musique plutôt calme, alors ça peut être de la soul... à la Motown des années 60 avec du Marvin Gaye, des trucs comme ça. Ça peut être aussi du José Padilla qui faisait des
Café Del Mar,
du Café Del Mar. Donc le mix qui se retrouve dans une sorte d'état tranquille parce que voilà, le monde dans lequel il est aujourd'hui sur l'eau, c'est peut-être l'endroit le plus magique, et avec ce coucher de soleil, faut imaginer le truc. Voilà, on raconte l'histoire, mais il faut aussi avoir dans sa tête ces petites bulles de petits films, en fait, et c'est compliqué de faire des playlists, en fait, pour d'une part pour des copains, parce que moi je les vois pas non plus tous les jours puisqu'ils ont quand même autre chose à faire, et de par leur métier et leur préparation pendant les 2 ou 3 ans avant le Vendée, et c'est de se mettre à leur place en se disant, toi, si tu étais sur l'eau, alors moi j'y vais beaucoup moins qu'eux, hein, je navigue très peu, mais j'ai eu quelques expériences et j'ai essayé de trouver la musique qui allait, en fait, avec un moment particulier. Alors, ouais. Je voudrais bien les voir juste une petite fois dans les 40e rugissant pour voir quel type de musique je mettrais. C'est pour ça que je lui ai mis de la musique classique aussi à Yannick, parce que je pense que la Valkyrie, la chevauchée des Valkyries, ça peut être aussi sympa avec la grosse vague derrière.
Ah, super. Ouais.
Est-ce qu'il y a une musique pour la ligne d'arrivée ?
Je sais pas, il y a un petit clem que j'ai essayé de pousser avec Arnaud, avec Yannick sur un titre des Daft Punk, Harder, Better, Faster, Stronger. Je pense que ça résume un petit peu aussi cet environnement de Vendée Globe qui est la course des aventuriers. Et,
Europe, the final countdown.
Ça va bien pour la course.
Ça peut être ça aussi. We are the champion. Mais voilà, après,
c'est plutôt les footeux.
C'est plutôt les footeux. De mémoire, je crois que Arnaud, quand il a fini son dernier Vendée Globe, Quand il a fini dixième, il avait mis un titre de Chaka Ponk, je crois, quand il était arrivé sur la scène, accueilli par le.
On y revient à Chaka Ponk.
Moi, j'ai un souvenir personnel, arrivé d'Alessandro Di Benedetto, qui est arrivé dernier, c'était en 2008 peut-être, je sais plus. Enfin, bref, j'étais allé à son arrivée, et alors, il y avait une lumière rasante, dorée, qui baignait toute la scène. Lui était limite porté par la foule, en sortie de ponton jusqu'à la scène. Et là, face au soleil couchant, il a chanté O Sole Mio. Il chante bien. Il a une voix de ténor italien, quoi.
Tous les Italiens chantent bien.
Tout le monde était calmé. Et à la fin, il s'est jeté dans la foule comme une rockstar. C'était monstrueux.
Pas mal. Et alors, je ne sais pas si Thomas, il écoute de la musique à bord, mais il a des consignes du genre là, tu te tais, tu laisses parler le bateau. C'est le bateau que je veux entendre.
Non, au contraire. L'idée, c'est d'être qui il est et de faire sa course.
Okay.
Voilà, y a les sons. Le bateau s'exprime suffisamment pour que.
Bon, il a pris un de tes albums au moins.
Et il faudra lui poser la question.
S'il met de la musique à bord, est-ce que ça s'entend avec tes 16 capteurs?
Ah, évidemment. Ouais, on entend tout. Il écoute de la musique, là, déjà. Il y a une prise où il écoute, je ne sais plus ce qu'il écoute.
Radio Ponton, je crois. Il a téléchargé en podcast.
J'aimerais bien qu'on réentende un autre son, parce qu'on a entendu ce bruit d'alarme. Est-ce que qu'est-ce qu'on a? On a, alors j'ai plein de choses à vous proposer. Je sais pas, je demande à l'assemblée. Il y a le bruit des drisses dans les mâts, il y a les foil, il y a.
Moi, je voudrais bien un winch.
Ah, ça on l'a pas encore.
Moi, je veux bien du foil. Moi, je veux bien retourner, refaire un petit tour en Imoca. Ouais.
Alors foil premier front, c'est dans le premier front, je crois qu'on a un enregistrement comme ça. Ça, c'est ça. Et alors, on parlait des mâts. Le mât qui a fait défaut à Thomas.
Nicolas Troussel.
À Nicolas Troussel. Là, on a aussi un son qui provient de là.
On entend les feuilles là, tout au fond, d'ailleurs, qui sifflent un peu.
Ce son-là, moi, il m'a interpellé. C'est un micro qui est à l'intérieur du mât?
Oui, les mâts sont creux.
Bah forcément, ils sont tous creux, les mâts. Ouais.
Les mâts sont creux, ouais. Je savais pas.
Ouais. Mais qu'est-ce qui fait ce...
Pas les mâts en bois.
Je navigue sur ma bisquine cancalaise. Bons mâts en chaîne. Ou...
D'accord.
Alors tous les mâts modernes sont creux et les micros sont placés à l'intérieur à 1,50
m. Et là, on a l'impression de l'entendre brinque-baller un peu.
Les drisses, les câbles électriques qui vont au radar, qui vont... aux capteurs qui sont placés tout en haut du mât, qui sont plus ou moins sécurisés. Hein. Normalement, on ne les entend pas. Mais là, c'était, je crois, le premier front de nuit. Thomas m'a dit, je l'ai en vacances une fois par semaine, il m'a dit que c'était une des pires nuits de navigation qu'il ait eu. Le premier front, pas Teta, hein, le premier front, deux jours.
Ça, ils l'ont tous dit, deux jours, très dur, ce front.
Et Clarisse disait qu'elle avait eu très peur. Et ça a été... C'est pour ça que... Je pense que Charlie et Thomas se sont dit, contrairement à Jean et à Alex, à l'approche de Teta, on va pas faire les malins et on va s'écarter parce que là, on a déjà eu un peu peur et c'est que le début. Quoi.
Ce premier front, c'était encore un peu dans le golfe de Gascogne ou c'était complètement dehors?
C'était Cap Finistère, je crois.
C'était au large du Cap Finistère.
C'est des coins où il y a
des mers, entre le Portugal et les Açores.
C'est que c'est des coins où il y a des mers vraiment dégueulasses.
Mais c'est le son, je le trouve fascinant. Mais je trouve que c'est d'une violence extrême. On pense souvent au bruit de la navigation, le bruit de la mer, limite les mouettes, le vent, etc.
C'est
des sons plutôt doux. Là, c'est quand même c'est violent, quoi.
Ah bah là, les conditions de navigation sur ces bateaux, on les subit. Hein. Clairement, c'est pas une partie de plaisir. C'est fascinant, mais alors, moi, j'aimerais pas être à leur place. Là.
On a un dernier son. Je crois que c'est un micro qui est placé à l'intérieur. Pareil, sur le premier front. Ça doit pas être ça, bon, c'est déjà pas mal. Mais
ça, c'est à côté des toilettes.
C'est le mât, c'est le mât.
Ça, c'est le mât. Alors, les drisses, si elles battent comme ça, ça peut amener à une autre discussion. C'est qu'en fait, elles sont absolument pas sous tension pour réduire la compression du mât sur le pont. Et elles sont pas sous tension grâce à des hooks. Et le Captain Hook a posé beaucoup de problèmes.
Les hooks
là, hein.
Qu'on cassait en série, on peut en parler, mais en fait, j'ai pas grand chose à en dire parce que, à part le.
Non, en fait, c'est moi ce que j'ai cru en voir. Il y a certainement autant de problèmes techniques que d'avaries de hook. Ce qui est certain, c'est que le système mécanique n'a pas l'air d'être forcément en cause, mais ça peut être un problème d'utilisation, c'est-à-dire une drisse qui s'enroule autour du système mécanique, qui va tout bloquer, etc. Enfin, il y a plein de paramètres, quoi. Ce n'est pas forcément la pièce qui va être défaillante, mais ça peut être d'autres éléments extérieurs qui arrivent à bloquer tout le système. Mais voilà.
Avec notamment, je pense, les rotations du mât. Ouais. Je reviens juste une question à Romain. Il y a des marins qui confient finalement que c'est aussi à l'oreille qu'ils arrivent à guider leur bateau. Alors c'est encore plus vrai, j'imagine, pour Alex Thompson, parce qu'il est privé d'une partie de sa visibilité, enfin sa vision naturelle. Quand tu as navigué avec Thomas pendant le défi Azimut, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que le bruit anormal, on le perçoit dans ce vacarme, dans ce chaos.
Tout à fait. Thomas, c'est marrant d'ailleurs, parce que ça c'est un peu le cas dans la plupart de mes projets avec les gens que je rencontre, que ce soit ces marins sur le chalutier, les Inuits dans leur village. En fait, souvent les gens n'ont pas conscience de l'importance du son. Et évidemment, les marins, pour les marins, c'est un sens très important. Thomas en parle assez souvent là depuis qu'on s'est rencontrés, où maintenant il arrive à le dire et à le verbaliser. Mais on peut, au son, en fermant les yeux, savoir si le bateau marche.
C'est bien réglé ou...
Entièrement. Il y a une sorte d'harmonie qui découle de ça. Et c'est peut-être, je lui ai rajouté quelques kilos, mais c'est peut-être cette conscience du son et le dispositif qu'il fera gagner au final. C'est ça qui est assez rigolo.
C'est tout ce qu'on lui souhaite, en tout cas. L'harmonie à partir du chaos sonore.
Alors, Nazaré, on va l'écouter. Chers auditeurs, allez sur Internet, essayez de je ne sais pas s'il y a en libre accès ce documentaire que tu as fait.
Chers auditrices également.
Et auditrices, oui, pardon.
Il y a des teasers, le film n'est pas encore disponible.
Bon, regardez les teasers, c'est déjà, ça en voit, quoi. Voilà. Romain, sur ses autres projets, allez au cœur des éléments pour enregistrer les sons. Alors là, forcément, c'est une course en solitaire, il n'a pas pu y aller. Il aurait peut-être aimé se faire tout petit dans la soute à voile, mais voilà. Et voilà, Nazaré, c'est...
Là, tu parles du film sur Nazaré.
Le film sur Nazaré, oui, il est...
C'est vrai que souvent, il y a un engagement physique, personnel assez important sur les projets.
Là, c'était particulièrement vrai, si j'ai bien compris.
Et sur Nazaré, j'étais avec les surfeurs sur le spot lors des grosses swells de l'hiver 2018.
Ça fait peur.
C'est assez terrifiant. Et c'est ce que ce morceau témoigne... Des enregistrements témoignent de cette première arrivée sur le spot au pied du phare avec des vagues qui avoisinent les 20-25 mètres.
Ah, peut-être on l'écoute maintenant du coup.
Allons-y.
Nazaré. Inquiétant, effectivement. Ouais.
C'est bien pour une fin.
C'est pas mal. Mais attends, juste une question. Ce film, sur Nazaré, parce que quand est-ce qu'on pourra le voir vraiment ?
Eh ben, j'espère le plus tôt possible. Ça, c'est avec la production qu'il faut voir. En fait, c'est un projet qui s'inscrit sur plusieurs épisodes. On devait partir cet été à Tiopo pour travailler sur la vague mythique de Tiopo. À Tahiti et à Hawaï sur la vague mythique de Jaws, et évidemment les conditions sanitaires ont un peu décalé tout ça, donc
ça aussi.
Voilà, on est en train de se réorganiser.
Ok,
très bien. Bah, écoutez, messieurs, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Invitation.
Merci Olivier de Rock & Folk, et merci Romain alias Molécule. Merci à Phil.
Un plaisir.
Puisque c'était un numéro très musical, vous pouvez retrouver sur Voile et Moteur. Il y a, alors faut fouiller, mais pas très longtemps sur le site, et vous trouverez un petit article qui s'appelle la playlist du Vendée Globe. Et on a demandé à tous les coureurs du Vendée de nous sélectionner deux titres. Donc c'est assez divers, et voilà, ça peut pour se mettre dans l'ambiance de ce qu'ils écoutent.
Tout à fait. Moi, il y a Carlos. Moi, qu'est-ce que tu bois, doudou, didon, dans ma playlist. Merci Alan, merci à toutes et à tous. Radio Ponton, c'est fini. On se retrouve très bientôt pour parler des voiliers de l'année et des motorboats de l'année.
Exactement. Merci Pierre-Yves, à bientôt.
À bientôt.
Merci, au revoir.
Appel à tous, ici Radio Ponton, on dégage sur le canal 72.